RCF. 7h30, on retrouve Lucie Rispal pour le journal de la rédaction. Bonjour Lucie.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
Début d'un procès historique aujourd'hui à Paris.
Trois hauts responsables syriens, bras droit de Bachar al-Assad, sont jugés pour complicité de crimes contre l'humanité et délits de guerre. Ce procès jugera les plus hauts responsables jamais poursuivis en justice depuis l'éclatement de la révolution syrienne, selon la Fédération internationale pour les droits humains. 8 mois de guerre dans l'enclave palestinienne, dans la bande de Gaza. Hier, le procureur de la Cour pénale internationale a réclamé plusieurs mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, mais aussi contre plusieurs cadres du Hamas. Et puis le Canada a été à nouveau frappé par les incendies. Des habitants de centaines de villes ont été obligés de quitter leur domicile. Dans le Nord et en Colombie-Britannique, des feux qui ont démarré très tôt cette saison. On en parlera dans un instant.
C'est un procès historique qui s'ouvre aujourd'hui à la cour d'assises de Paris.
Ali Mamlouk, Jamil Hassan et Abdel Salam Mahmoud, trois hauts responsables syriens, bras droit de Bachar al-Assad, sont jugés pour complicité de crimes contre l'humanité et délits de guerre. Poursuivis en justice depuis l'éclatement de la révolution syrienne, c'était en 2011. C'est le long combat de l'oncle de Patrick et Mazen Daba qui permet l'ouverture de ce procès. Maître Clémence Bechtart est avocate de la Fédération internationale pour les droits humains. C'est elle qui va plaider à la cour d'assises de Paris aujourd'hui.
C'est le fait de constater par une justice indépendante un constat judiciaire qui viendrait dire que ces trois accusés font partie du sérail de Bachar el-Assad. On parle là vraiment de sa garde rapprochée et qu'un lien a été établi entre ce qui est arrivé à Patrick et Mazen et leur rôle en tant que complices de crimes contre l'humanité et de délits de guerre. Donc ça n'a pas seulement une portée symbolique, c'est aussi l'aboutissement d'un combat judiciaire long, semé d'embûches, d'obstacles et qui est très important. Et puis il faut le rappeler, le temps est long de la justice, il est toujours long. Et ce sont des crimes imprescriptibles. Donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et si un jour le régime de Bachar el-Assad chute, peut-être que ces mandats d'arrêt pourront être mis à exécution pour faire jaillir une vérité judiciaire sur la réalité des crimes commis par ce régime, dans un contexte où le régime nie totalement le fait que des crimes contre l'humanité aient pu être perpétrés à l'encontre de la population syrienne.
Et le procès se déroulera à Paris jusqu'à vendredi.
Tout autre sujet, elle rendra sa Légion d'honneur si la loi sur la fin de vie est adoptée.
Jeanne-Françoise Hutin, figure bretonne, épouse d'un des fondateurs du journal Ouest France, européenne engagée auprès de Simone Veil notamment, menace de rendre sa Légion d'honneur qu'elle avait reçue à l'Élysée des mains d'Emmanuel Macron en 2019. Elle menace donc de la rendre si l'aide active à mourir est votée. Elle l'a écrit au président de la République. Cette loi a pour objet d'arrêter la fin de vie de mettre la fin de vie du coup à des gens qui sont en situation de très grande fragilité. Je vous propose d'écouter son témoignage.
Je voulais faire un geste fort parce que je considère que la loi qui est en préparation, qui a pour objet la fin de vie, mais qui en fait va réintroduire dans notre législation la possibilité de donner la mort aux personnes les plus fragiles, les plus faibles, les personnes les plus désespérées, me paraît quelque chose d'inadmissible, d'inconcevable, de contraire à toute l'éthique de l'ordre de la Légion d'honneur de mon pays, que j'aime beaucoup, de la République. Ça m'ennuie, ça m'attriste de quitter cet ordre, mais en conscience, je ne pouvais plus rester. C'était pas loyal de ma part. Je voulais être en clair avec ma conscience et je me suis dit qu'il faut un peu de courage, mais que c'est plus important de savoir dire non quand quelque chose est inadmissible que de l'accepter pour garder une médaille.
Après l'examen du texte la semaine dernière par la commission spéciale de l'Assemblée, le projet de loi sur la fin de vie sera présenté en séance publique le 27 mai. Emmanuel Macron salue de nets progrès dans le rétablissement de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Il a pourtant décidé de déployer des militaires devant les édifices publics. Sonia Lagarde, la maire Renaissance de Nouméa, lui a d'ailleurs demandé hier de ne pas convoquer le congrès visant à entériner la réforme constitutionnelle sur le dégel du corps électoral. Le Sénat débat aujourd'hui de plusieurs mesures de régulation du marché des meublés touristiques comme Airbnb, une initiative transpartisane pour redonner du pouvoir aux maires ou encore pour s'attaquer à cette niche fiscale décriée. Les usagers des RER et trains de banlieue d'Île-de-France exploités par la SNCF vont faire face à un trafic très fortement perturbé par la grève des cheminots aujourd'hui. Les perturbations sont à prévoir notamment sur le RERD. Et puis Jean-Claude Gaudin est mort hier dans sa résidence secondaire du Var. Celui qui a notamment été maire de Marseille pendant 25 ans a succombé à une crise cardiaque dans la matinée. Des Iraniens en deuil rendent hommage aujourd'hui au président Ebrahim Raisi. Le dirigeant ultra-conservateur a été tué dans le crash d'un hélicoptère dimanche. Il était notamment pressenti pour succéder à l'ayatollah Ali Khamenei, plus haute figure d'autorité dans le pays. Le vice-président Mohamed Mokber a été désigné comme chef de l'exécutif. Il s'agit d'une nomination par intérim, le temps d'organiser de nouvelles élections. Ce scrutin aura lieu le 28 juin, c'est ce qu'a rapporté la télévision d'État.
Il est 7h35, 8 mois de guerre dans l'enclave palestinienne dans la bande de Gaza.
Hier, le procureur de la Cour pénale internationale a d'ailleurs réclamé plusieurs mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense, mais également contre des dirigeants du Hamas. Les explications de Florian Perret.
Le procureur général de la Cour pénale internationale poursuit Benjamin Netanyahou pour des crimes tels que le fait d'affamer délibérément des civils, homicide intentionnel ou encore extermination et ou meurtre. Benjamin Netanyahou a dit rejeter avec dégoût ces mandats d'arrêt. Des mandats d'arrêt ont aussi été demandés contre Yahya Sinwar, chef du Hamas. Le Hamas est accusé d'extermination ou encore de viol. Le président américain Joe Biden, principal allié d'Israël, juge scandaleux le mandat d'arrêt réclamé contre Netanyahou. Il a expliqué qu'il n'y avait pas d'équivalence entre Israël et le Hamas. Anthony Blinken a pour sa part qualifié de honteux ces mandats. Il a tenu à prévenir, cela pourrait compromettre les négociations sur un cessez-le-feu.
Le Canada, à nouveau frappé par les incendies qui font rage depuis des jours.
Des habitants de centaines de villes ont été obligés de quitter leur domicile la semaine dernière dans le Nord et en Colombie-Britannique. Des feux qui ont démarré très très tôt cette année, alors que le pays a connu déjà l'année dernière la pire saison des feux de son histoire. Les précisions d'Émilie Bala.
Des centaines de pompiers sont à pied d'œuvre au Canada. Les autres se forment dès à présent en prévision d'un été 2024 redouté après la pire saison des feux de l'histoire du pays en 2023. Cette année, les incendies ont débuté encore plus tôt alors que le pays connaît des températures largement au-dessus des normales saisonnières. Les sols sont secs et très inflammables car depuis plusieurs années, il manque de pluie. Les autorités canadiennes renforcent donc leurs effectifs et leur budget pour lutter contre ces incendies. Certains de ces départs de feu violents proviennent d'ailleurs de feux qui ne sont pas éteints depuis l'an dernier, mais qui ont passé l'hiver sous la neige, alerte des chercheurs en écologie forestière. Certaines villes et certains villages plantent des végétaux moins inflammables près des habitations et les habitants se montrent, eux, plus attentifs au risque des incendies.
Les précisions d'Émilie Bala.
Et ce week-end, c'était la Pentecôte et c'est le grand rendez-vous annuel des catholiques traditionalistes.
Le pèlerinage de Chartres, organisé depuis plus de 40 ans par l'association Notre-Dame de Chrétienté, ce week-end, 18 000 pèlerins ont marché pendant 3 jours depuis la capitale, Paris, jusqu'à Chartres, 100 km au rythme des cantiques en latin. Ce qui pouvait surprendre, eh bien, c'est la jeunesse de ces pèlerins. L'abbé Mathieu Raffray est prêtre traditionaliste de l'Institut du Bon Pasteur, professeur de philosophie à l'Université pontificale des Dominicains à Rome. Il nous donne son explication.
C'est un pèlerinage qui est très jeune, puisque la moyenne d'âge, si je ne me trompe pas, est aux environs de 21 ans. Sur 18 000 personnes, ça fait quand même beaucoup de jeunes. C'est caractéristique, me semble-t-il, de ce désir, de cette recherche chez beaucoup de jeunes, d'un christianisme épanoui, d'un catholicisme qui se manifeste publiquement, qui s'assume, qui est fier et qui est heureux. Et c'est ça que viennent chercher les jeunes dans ce pèlerinage. Ils ont vu aussi les images, évidemment, des années précédentes et ça les a séduits. C'est pour ça que de plus en plus, ils viennent, ils amènent leurs amis pour découvrir, en fait, peut-être ce qui manque aujourd'hui, malheureusement, la joie d'être chrétien, la fierté de l'être, savoir argumenter, savoir se défendre sa foi et la revendiquer même comme l'appartenance à une communauté d'église.
Vous écoutiez l'abbé Mathieu Raffray, qui est prêtre traditionnaliste de l'Institut du Bon Pasteur et professeur de philosophie. Aujourd'hui, les traditionalistes sont assez minoritaires. Ils représentent moins de 5% des catholiques en France. Et puis pour finir ce journal, la flamme olympique, hein, on en parle un petit peu, elle est attendue sur le tapis rouge aujourd'hui du Festival de Cannes. C'est Arnaud Assoumani, champion paralympique en para-athlétisme, qui portera donc cette flamme olympique.
Merci beaucoup Lucie Rispal. Ce week-end, c'était la Pentecôte. Les chrétiens célèbrent l'Esprit Saint qui descend sous la forme de flamme. Donc cette flamme olympique à Cannes est donc d'actualité. Lucie Rispal pour le journal de la rédaction de RCF, à réécouter sur le site internet, comme chaque jour, rcf.fr. Très bonne journée, nous sommes aujourd'hui le mardi 21 mai et nous fêtons les Constantins.